Bien, bonjour mesdames. J'ai donné un thème à Madame Usan, mais ça ne sera pas ça du tout. Voilà. Les choses sont...
Comme on ne connaît pas le thème, alors...
C'est pas grave. Alors... avec des talmidim, des chaverim, on étudie un sujet qui ne va pas vous plaire.
Ah ouais, pourquoi ?
Non, ça ne va pas vous plaire. C'est le sujet de la tzniout. Ah. Alors... en vérité, ce sujet, bon, c'est un peu la tarte à la crème des cours de Torah. Hein. C'est un peu la tarte à la crème. Alors, on va essayer de voir, j'ai étudié là, récemment un point qui, en tout cas pour moi, c'est un aspect nouveau et je pense que ça pourra être partagé. Donc, je vous passe des photocopies. Voilà. Bien. Donc c'est le chapitre 24 du premier livre de Shmuel, du premier livre de Samuel. Chapitre 24. Et vous allez voir, c'est absolument magnifique, ne serait-ce que l'histoire. L'histoire est peu connue. Alors, je vais vous mettre un peu dans le sujet. Non.
Non, moi d'accord.
Si tu m'aides, je viens suivre avec toi.
Je crois que la dernière fois que j'étais venu ici, on avait déjà vu un passage dans le livre de Samuel lorsque les enfants d'Israël avaient demandé un roi. Et donc c'était la dernière fois qu'on avait étudié ensemble. Le premier roi qui a été nommé depuis que le peuple d'Israël a été formé à la sortie d'Égypte. Le premier roi, c'était Shaoul. Saül en français. Et Shaoul, quand il a été nommé, le prophète Shmuel l'a présenté aux enfants d'Israël. Regardez-le, il n'y a pas de meilleur que lui dans le peuple d'Israël. Mais sa royauté n'a pas duré longtemps. Il a fait quelques erreurs et rapidement, le prophète lui a dit « Dieu retire la royauté de toi et la donnera à un meilleur que toi. » Tintin.
Effectivement.
Tintin. Un meilleur que moi. C'est qui ? Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un petit berger.
Il y avait des troupeaux.
Avec des troupeaux, évidemment. Un berger sans troupeau, c'est un chômeur. Donc, il y avait un petit berger. Et le prophète Shmuel va clandestinement chez Ishaï et nomme clandestinement David comme roi à la place de Shaoul. C'est important parce que le premier roi est de la tribu de Binyamin, de Benjamin, enfant de Rachel, et David de Yehuda, enfant descendant de Léa. Bien. Ok. Mais personne ne sait que c'est David qui a été nommé en cachette par le prophète. Il y a Goliath qui arrive. Vous voyez Goliath ? Très méchant, très méchant. Et il Il nargue le peuple d'Israël pendant 40 jours. Il le dit, il dit aux enfants d'Israël, vous êtes tous des poltrons, envoyez-moi quelqu'un qui se batte avec moi, celui qui gagne, eh bien, si c'est vous qui gagnez, les Philistins seront soumis à Israël, si c'est vous, si c'est les Philistins qui gagnent, ça sera le contraire. Ils ont tous peur, et il y a les frères de David qui sont à la bataille, et David, il est avec les troupeaux. Suspense, hein.
On connaît toute l'histoire.
Vous connaissez l'histoire?
Bah évidemment, tout le monde la connaît.
Vous avez vu le film?
Non.
Ah bon? Et alors?
Alors?
Il y a le papa de David qui lui dit, regarde, il y a tes frères qui sont au front, prends un peu des petits gâteaux que ta maman, elle a fait, et tu vas le rapporter. Il y va, et il voit le monstre là qui nargue les enfants d'Israël. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Comment vous avez tous peur? Oh, mais c'est terrible, etc. Il lui raconte qu'est-ce qui se passe. Il dit, et le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Évidemment, le roi, il a dit, celui qui arrive à nous débarrasser de Goliath, il lui donne sa fille en mariage, évidemment. Bien. Allez, il n'y a pas de problème, amenez-moi chez le roi. Ah non, c'est pas ça, c'est que après que Akadosh Baruch Hu ait dit à Shaoul qui lui retire la royauté, Shaoul a eu des crises d'angoisse. Et un des pages de Shaoul lui dit, je connais un jeune berger qui joue très bien de la musique. Et c'était David. David venait jouer de la musique, donc Shaoul connaissait David, qui jouait très bien la musique, ça le calmait. Okay. David, il dit, amenez-moi chez le roi. Le roi, il lui dit, tu sais, qu'est-ce qui va faire que je te donne le droit de mettre le peuple juif en danger? Bon, David arrive à le convaincre, il y va, il débarrasse de Goliath, et le roi est bien obligé de lui donner sa fille en mariage, Michal. Mais le roi, parce que tout le monde était adoré David, tout le monde adorait David, il allait dans la rue, tout le monde applaudissait. Il commence à se dire, peut-être serait-ce celui-là que Dieu a dit qu'il va me remplacer. Et alors, nonobstant le fait qu'il fût son gendre, il n'eut de cesse, accent circonflexé, de vouloir se débarrasser de David. Mais pas clairement, c'était pas clair. Il lui demandait des missions impossibles et toujours David réussissait. Et la haine de Shaoul augmentait. Il lui a dit des choses impossibles, il réussissait. Gvalt, comme on dit en yiddish ici à Sarcelles. Un peu de yiddish, quelques mots. Alors, finalement, Michal a compris que son père veut tuer son mari. Et dans la nuit, elle a compris que là, ça va être terrible. Personne ne sait, c'est pas officiel du tout que Shaoul veut tuer David. C'est pas officiel. Et en pleine nuit, Michal dit à David, passe par la fenêtre, pars. Et il faut que tu déguerpisses. J'ai compris que mon père veut te tuer ce soir. Et il y a la garde secrète du roi qui arrive à la porte de la chambre, parce qu'ils habitent dans le palais. Et Michal dit, non, il est malade, etc., machin. Ils attendent à la porte pour le sortir. Le lendemain matin, ils ne sortent pas, défoncent la porte, et Michal avait mis un mannequin sur le lit. Ils enlèvent, ils voient que c'est un mannequin. Et le père voit sa fille, il lui dit, quoi, tu m'as trahi? Dans mon palais, tout le monde est contre moi. Je vais te tuer. Il dit, non, non, si en vérité, je ne voulais pas. Mais il m'a dit, sous peine de mort, il avait le couteau sous ma gorge en me disant, laisse-moi partir, sinon je te tue. Etc. Vous voyez l'ambiance, sympathique. Famille juive, bonne famille. Alors, il y a quelques minutes, le prophète a dit, regardez, c'est le meilleur du peuple juif, hein, je vous ferai remarquer. Finalement, David, il part dans les montagnes de Judée, et David, c'est un grand sadique, et il y a plein de personnes qui comprennent que David, c'est quelqu'un, et ils l'accompagnent, et ils vont de cachette en cachette, de cachette en cachette. Et c'est ce que nous allons voir. Tintin. Chapitre 24. Alors, les psoukim sont vraiment sublimes. Les psoukim sont magnifiques. C'est pour ça qu'on va les lire en hébreu, rien que pour goûter la beauté de la langue prophétique. Pasouk Aleph du chapitre Kavdalet, je vous ai mis des photocopies. Vayal David Misham, Vayeshev Bim Tsadot En Gedi. Excusez-moi. Oui, ça c'est le dernier pasouk. Oui, excusez-moi, c'est le premier pasouk. Vaïe kachershav, oui, excusez-moi. Vaïe kachershav Shaul Mahare Pelishtim. Vaïa Gidulo, les morts, iné David ve Midbar Engedi. Ce fut quand Shaul revint, après avoir fait la guerre avec les Philistins, on lui a rapporté en disant. David se trouve dans le désert de En-Gedi. Vous savez où c'est En-Gedi ? Hein ? Au sud de Jérusalem, il y a des cascades, des canyons, voilà. Et il y a des agents secrets. La police secrète dit à Shaoul, David est caché dans les repères de En-Gedi. C'est l'air de Fantomas. Pasouk suivant. Vaïkar Shaul Shoshet Alafim Ishbachur Mikol Israël. Vaïeler le vaquel chez David Vanasha Valpenet Tsure Aye Elim. Shaul prit 3000 hommes d'élite de tout Israël. Regardez le drame. David, il n'a fait que sauver le peuple d'Israël. En plus de ça, c'est le gendre du roi. Il a été nommé par le prophète roi, clandestinement. Il se cache. Et qu'est-ce que fait Shaoul ? Shaoul prend 3000 hommes d'élite, c'est-à-dire les meilleurs soldats de tout Israël. Il ne prend pas 10, il n'en prend pas 20, il n'en prend pas 30, il en prend 3000 hommes. Vayeler, il partit pour rechercher David et ses hommes sur les rochers des bouquetins. Yélim, ce sont les bouquetins qui vont dans les collines, vous voyez, là-bas, dans les rochers escarpés. On lui a dit, David et ses hommes se cachent dans les repères, dans ces rochers où il y a les bouquetins. Vayavo el gidrot atson à la derrière. Vesham Mehara, Vayavo Shaul Leaser et Raglav, Ve David Vanashav Beyarkete Amehara Yoshvim. Shaul alla dans les clôtures des moutons sur le chemin, et là-bas il y avait une caverne, et Shaul est allé pour dénouer ses jambes, et David et ses hommes se trouvaient au fin fond de la caverne installés. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a Shaoul avec ses 3000 hommes d'élite, vous voyez les GI là, machin, avec tout le. Voilà, tout la, tout les armes et tout, machin. Et Shaoul a besoin de faire ses besoins. Arrive, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vayavo el Gidrot Hatson à la derrière. Il a là, donc on est en Eretz Israël, il y a le terrain est escarpé, il y a des bergeries, il y a des petits murets en terre sèche, en pierre sèche, et il va derrière des murets, au pluriel, des murets de bergerie sur le chemin, et au fond, il y a une caverne, et il va au fond de la caverne, la serre et traglave, pour recouvrir ses jambes, pour faire ses besoins. Et toc, c'était dans la caverne où David et ses hommes étaient cachés au fond de la caverne. Qu'est-ce qui va se passer? Attends. Regardons la suite. Vayomru anche David elav. Iné ayom asher amar Hashem elecha. Iné anochi noten et oivecha beyadecha. Vasita lo kasher ita benecha. Vayakom David vayichot et knaf ameil asher le Shaul banat. Les hommes de David lui dirent, regarde. C'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit, je donnerai tes ennemis dans ta main. Et tu feras tout ce qui est bon à tes yeux. C'est-à-dire, là, Akadosh Baruch Hu t'a mis ton ennemi à ta merci. Parce qu'en vérité, David, il est poursuivi. Il y a une halakha dans la Torah. Abba le orgecha, ashkem le orgo. Si quelqu'un viens te tuer, si tu as entendu parler qu'il veut te tuer, tu dois aller plus vite que lui pour l'éliminer. C'est une mitzvah de la Torah. Et ça ne change rien. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de tuer dans la Torah, c'est connu. Mais parfois, c'est une mitzvah. J'ai entendu de Rav Yechiel Brandt, grand sarcellois, il a rapporté une fois l'explication, quand on lit les 10 commandements, on dit comme ça, lo tirtsar, ne pas tuer, ne pas, il y a un arrêt, tuer. Parfois, que Dieu nous en préserve, c'est une obligation de tuer. Pas seulement si notre vie est en danger. Non, mais si notre vie est en danger, s'il y a quelqu'un qui est un agresseur, si quelqu'un c'est un agresseur, c'est une obligation de le tuer. Ça, dans la civilisation chrétienne occidentale, ils ne comprennent pas ça. Ils le font, mais ils ne l'assument pas. Mais dans notre tradition, c'est une obligation, c'est une mitzvah. C'est peut-être une mitzvah très désagréable. C'est peut-être que quelqu'un dit, moi je ne ferai pas de mal à une mouche. Mais parfois, il faut se défendre. Prenons, j'ai un sefer chez moi où il y a des questions d'Alaha. Prenons un exemple. Ce qui se passait il y a quelques années à Gaza, le Hamas mettait peut-être ils font encore, des bases militaires dans les hôpitaux. Exprès. Des bases militaires dans des hôpitaux. Pour que, quand les Israéliens se défendent, ils tuent d'office des civils. Est-ce que dans des cas comme ça, d'après la halakha, indépendamment de ce que les nations vont raconter, parce qu'ils ont tout un baratin, toute une propagande, est-ce qu'on doit se défendre néanmoins, puisqu'ils le font exprès? Ils le font exprès. On doit se défendre. Donc vous voyez que parfois, que Dieu nous en préserve, qu'on ne soit pas dans des situations comme ça, on doit on doit éliminer d'une obligation la personne qui recherche à nous tuer. C'est une obligation, on l'apprend des versets de la Torah. Donc les soldats de David lui disent, mais cher David, voilà ton ennemi qui a mobilisé 3000 soldats pour te tuer. 3000 soldats, pas seulement 3000 soldats, 3000 soldats d'élite, comme si c'était vraiment l'opération Vigipirate numéro 1. Ouais, comme si toi tu étais un terroriste, mais il n'a rien fait, il n'a fait que sauver le peuple d'Israël. Eh bien, il est là, tranquille. Oui, comme on dit dans le midi, tranquille. Ouais. Eh bien, on y va. Qu'est-ce qu'il fait, David? Regardons le verset. Va Yakom David, David se leva, va Ichot et Kdaf Ameil, Asher le Shaul Balat. Il coupa un morceau du manteau de Shaul discrètement. Va Yarareken. Vayar lève David auto à la chair karat et knaf à chair le Shaoul. Après, ça l'a beaucoup perturbé. Rien que le fait qu'il ait coupé un morceau du manteau, ça l'a, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas digéré ce qu'il a fait. Regardez la suite. Vayomer la nashav. Il dit à ses hommes, Khalil Ali Mahashem imeset adabarazé. La doni le Meshiach Hashem, le Shoar Yadbo, qui Meshiach Hashem ou. Chaz Veshalom, que Dieu m'en préserve, jamais je ne porterai la main sur celui que Dieu a décidé qui soit le premier roi du peuple d'Israël. C'est beau, hein? C'est pas beau du tout. C'est incompréhensible. On ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il y a une halakha qu'il faut se défendre, il faut se défendre, qu'il est nommé une fois, deux fois, trois fois par le roi, par le prophète, ça ne change rien. Comment il peut dire ça, David? Incompréhensible. Vaïchassa David et Tanasha Badvarim, velo netanam lakum el Shaoul. David a repoussé ses hommes avec des paroles, il a trouvé des arguments pour qu'ils ne touchent pas, parce qu'ils étaient. Ça fait des jours qu'ils sont poursuivis à mort par cet homme qui a du shaker, du mensonge dans son cœur. Et là maintenant, ils peuvent s'en débarrasser. David les empêche. C'est quand même bizarre. Continuons. Mais Shaul kam ma'ara va'yaler badarer. Shaul, il termine, il se lève et il part. Il s'est rendu compte de rien du tout. Vayakom David acharechen, David se leva après cela, vayetse minamara, il sort de la caverne, vayikra rare Shaoul, il appelle après Shaoul. Shaoul, regarde le morceau de manteau. Qu'est-ce que tu fais là, David? Qu'est-ce que tu fais? Sire, je pouvais vous tuer. Eh bien, vous voyez qu'en vérité, ça n'est que la calomnie. Ce ne sont que des fantasmes. C'est toute une histoire que vous vous racontez. Vous imaginez que je ne cherche que du mal. Mais vous voyez bien la preuve que je vous ne cherche que du bien. Je pouvais vous tuer et je ne vous ai rien fait. Regardez le verset. Je relis ce verset, le verset 9, tête. Vayakom David acharechen, David se leva, il sort de la caverne, il appelle Shaoul en disant Adoni Ameler, il appelle Seigneur le roi, Vayabed Shaoul acharav. Shaoul regarde derrière lui, Vayikod David apayem artsav ishtachou, David se courbe face à terre et se prosterne. Vayomer David le Shaoul. Lama tishma divrei Adam, les morts innés, David me bakesh ratecha. Pourquoi tu écoutes ceux qui te disent que David recherche ton mal? Iné, ayom azé, raou enecha, tachem le tanera hachem, ayom beyadi bamar. Regarde, tu peux voir très bien qu'aujourd'hui, Dieu t'a mis dans ma main, dans la caverne. Ve amar le rogra va taros alecha. Il a dit de te tuer et elle a eu pitié de toi.
Ma main,
la main.
Ils sont en retard.
Comment ?
Ils sont en retard.
Non, non, ils sont dans le sujet.
Alors c'est moi qui
suis en retard. Elles sont dans le sujet. Encore une fois. Là, c'est le cœur du sujet. Je reprends. Parce qu'il y a des bizarreries dans le verset.
Ah ouais, c'est sûr.
Il y a des anomalies. C'est notre sujet. Il dit, regarde, Dieu t'a mis dans ma main, dans la caverne, il a dit de te tuer. Qui il a dit ? Oui. Elle a eu pitié de toi. Qui ?
La main.
La main.
La main.
Nous allons voir le Talmud. Deuxième acte. Deuxième acte. C'est en araméen maintenant. Hein. Bon.
En araméen, on ne connaît pas.
En araméen.
Alors.
C'est la langue de Jésus. Ce qu'il parlait.
Alors. L'araméen, c'était la langue
de Jésus.
Non, de tout le monde. C'est comme vous dites, le français, c'est la langue de François Hollande. C'est aussi notre langue à nous. Je veux dire, aujourd'hui, au Moyen-Orient, il y a des millions de personnes qui parlent araméen.
Ici aussi, on en parle.
Oui, ici aussi, à Saint-Brice, il y a des Chaldéens, etc. Leur langue, c'est l'araméen. Par exemple, là où il y a l'État islamique, à l'est de la Syrie, au nord de l'Irak, la langue là-bas, c'est l'araméen, qui est la langue qui était au Moyen-Orient à l'époque de la Mishnah. Voilà. Donc c'est pour ça que la Gemara est écrite en araméen, c'était la langue de tout. Alors regardez, je vous ai souligné la Gemara d'Av Samerbet Amoudbet 62b dans le traité Brachot. Donc la Gemara va analyser ce verset. Donc je reprends. David, il dit à Shaoul, regarde, sire, Dieu t'a mis dans ma main, il a dit de te tuer. Qui il a dit ? Ve'amar lo'orgecha, il a dit de tuer, et il a eu pitié de toi. Il y a deux anomalies. Qui a dit ? Et pourquoi elle a eu pitié ? Dire, j'ai eu pitié ? Pourquoi elle a eu pitié ? Alors regardez. Ve'amar, ve'amarti, je me suis dit de te tuer, me va y aller. Il aurait dû dire, va'taros, elle a eu pitié. Il aurait dû dire, j'ai eu pitié. Amar, Rabbi Lazar dit, Amar lo David et Shaoul. David a dit à Shaoul, Mina Torah ben arigata. D'après la Torah, tu étais condamnable à mort. Pourquoi? Share rodefata, parce que tu es un agresseur. Va Torah amra, balor gerach kem lorgo. Si quelqu'un vient te tuer, lève-toi plus vite que lui pour le tuer. C'est ça, il a dit. Qui a dit ? C'est Dieu a dit de te tuer. Il a dit, c'est Dieu qui a dit. C'est pas moi que je me suis dit que je voulais te tuer. Je voulais pas te tuer, mais Dieu m'a imposé de te tuer. Il a dit de te tuer. Elle a eu pitié. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a eu pitié ? C'est la discrétion, la pudeur qui était chez toi. La pudeur qui était chez toi t'a sauvé. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, regardons, reprenons le verset d'Alet, le verset 4. Vayavo el Gidrot Hatson, il part à la guerre avec 3000 hommes de guerre d'élite. Donc, c'est un agresseur. Mais à un moment, il a besoin de faire ses besoins. Bon. Alors, ok, on pourrait dire, il y a un muret, il va derrière le muret, il fait ses besoins. Mais le verset dit, il a là El Gidrot Hatson. Il y avait un muret, ensuite un champ, un deuxième muret, et après, il est allé dans une caverne. Donc, ça ne suffisait pas. Deux murets. Et ensuite, c'est écrit « Léa ser et traglav ». Regardez, mesdames, le verset d'Alet, il alla derrière les clôtures des moutons. Là-bas, il y avait une caverne. Et il alla « Léa ser et traglav ». Qu'est-ce que ça veut dire « Léa ser » Moi, j'aime bien, quand j'enseigne, avoir un tableau. Je vais écrire là, dans la synagogue. J'aime bien pour mettre les mots et machin. Léa ser et raglav, lamed he samer chav sofit. C'est du langage de souka. C'est-à-dire, regardez, il y a une clôture, deuxième clôture, caverne, et c'est écrit caverne. Et il va l'éasser et traglave, c'est-à-dire il prend son manteau et recouvre son corps avec son manteau comme une souka. Ça veut dire l'éasser et traglave, ça veut dire pour recouvrir son corps. C'est pas un tueur, il fait pas ça. Un tueur, bon, je sais pas exactement comment il fait, j'ai pas une expérience. Disons, mais quelqu'un qui est acharné pour tuer, on peut imaginer. Il fait ça assez sauvagement. Mais là, pas seulement, il va dans un endroit le plus discret possible, personne ne le voit, il est dans l'obscurité de la caverne, il recouvre son corps avec son manteau. La serre comme du mot souka. Et là, David, il a vu cet homme qui avait une telle pudeur, et s'est dit, c'est peinture. À ce moment-là, c'est vrai que c'est un agresseur. Mais là, à ce moment-là, il est occupé à autre chose qu'être un agresseur. Autre chose qu'un agresseur. Donc c'est ça qui a sauvé Shaul. Alors, on peut se poser la question, plusieurs questions. C'est que dans toute l'histoire de Shaul, qui est le premier roi de Israël, que la qualité numéro un de Shaul, c'est sa pudeur, sa discrétion. Comme on le voit ici de manière assez impressionnante. Parce que quelqu'un part à la guerre, on voit, par exemple, quand quelqu'un part à la guerre, dans la Torah, c'est écrit, si quelqu'un part à la guerre, il gagne la guerre, et dans les captives, il y a une Goya, et qu'il a envie de cette non-juive, selon certains protocoles, elle lui est permise. Les Chachamim disent, il y a, si vous voulez, des lois de protection du viol dans la Torah, c'est ce qu'on appelle la Eshet Yefat Toar, parce qu'à la guerre, tous, la guerre, ce qui est en général interdit, tuer, devient pas seulement permis, mais il faut le faire. Donc, les pulsions humaines sont exacerbées. Il faut sauver sa peau. Donc, quelqu'un qui part à la guerre et qui va tuer, en l'occurrence, s'ils attrapent David, c'est pas pour jouer aux échecs avec lui ou faire une partie de mille bornes. C'est pour le tuer. Donc, quelqu'un qui est pris dans ses pulsions, quand on pourrait dire que ses fonctions naturelles sont exacerbées. Il a besoin de faire ses besoins, il fait ses besoins. Là, on voit, c'est pas un tueur. Pourquoi la qualité principale que Akadosh Baruch Hu a voulu trouver chez le premier roi du peuple juif, c'est cette attitude. C'est bizarre quand même, non ? Ça, c'est une grosse question. Toujours, je me suis demandé, peut-être on a vu une fois que quand il a été nommé devant tout le peuple juif, je pense qu'on a vu avec plusieurs d'entre vous, il y a eu un tirage au sort pour montrer quel va être le premier roi. Le sort est sorti, c'est Shaul qui a été nommé, tout le peuple juif était présent avec Shmuel, le sort est sorti sur Shaul, on recherche Shaul, et Shaul s'était caché, il ne voulait pas qu'on le voie. Nerba et la Kélib. Il ne veut pas qu'on le voit. Il est discret. Il ne supporte pas que tout le monde va le voir, tout le monde va l'applaudir. Il s'est caché. Pourquoi c'est ça la qualité du premier roi du peuple juif? Pourquoi c'est celui-là qu'Akadosh Baruch Hu a choisi? Et lorsque David il dit « Moi, je ne porte pas la main sur celui que Dieu a choisi », ça veut dire il a un plus grand niveau spirituel que lui. David, à côté, il se considère comme rien du tout. Pourquoi c'est cette qualité qui est la qualité principale du premier roi du peuple juif? C'est bizarre, non? Au contraire, un roi, vous voyez par exemple aux élections américaines, plus t'es chutzpan, plus ça marche. Plus t'as du bagou, plus tu arrives à t'en sortir, à sortir montrer que t'es capable, que tu as, on pourrait dire de la chutzpah, mieux c'est. Dans le peuple juif, c'est pas ça. Pourquoi? Ah ah.
C'est la
tsniout,
non?
D'accord, c'est la tsniout, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tsniout? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est ce qu'on voit, c'est ce que le passage du Talmud nous dit. C'est la pudeur qui était chez Shaoul. Mais pourquoi? C'est cette qualité qui distingue particulièrement la royauté, le roi d'Israël. Un roi, c'est quelqu'un qui c'est un chef. On n'attend pas d'un chef. Voilà, maintenant il va y avoir, je ne sais pas, un débat public entre des gens qui se présentent aux élections. Ils doivent montrer qu'ils assurent. Non, j'ai honte d'aller en débat. En public, je ne sais pas parler. Non. D'ailleurs, on voit, c'est Moshe aussi, Moshe Rabbeinu, c'est comme ça. Non, ça ne va pas le faire. J'ai un frère. Demande à mon frère. Non, moi non. Non, pas du tout. C'est ça la qualité, pourquoi? Comment? Oui. Oui, c'est la crainte d'Hachem, mais en quoi? Ça veut dire, même s'il est dans le noir, même s'il est dans la caverne et que personne ne le voit, si, Akadosh Baruch Hu le voit. Il n'est pas seul. Donc c'est ça ce qu'on voit, effectivement. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la royauté? C'est bien pour être un Rosh Yeshiva, non, c'est ce que je veux dire, un Talmid Chacham, mais pas un homme politique. Pourquoi un homme politique? C'est un roi. C'est un meneur d'homme. Un meneur d'homme, il doit savoir y faire. Non, il est gêné en public. C'est bizarre, non? Dans ce qui est bien avec mes cours, vous voyez, c'est qu'il y a plus de questions après qu'avant. Hein. Alors, bon. C'est une question.
On donne le temps au chat.
Comment?
On donne le temps au chat.
Alors, j'ai vu le commentaire du Maharal de Prague. Il dit quelque chose que je n'aurais pas trouvé moi-même. Je vais vous le dire. Atzniout, c'est les mots. Alors, le Maharal de Prague a écrit des livres, un livre qui s'appelle Le Netivot Olam, où il analyse les notions. Par exemple, le shalom, le emet, la paix, la vérité, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Il y a des rubriques comme ça, et il y a toute une rubrique sur l'Atzniout. Il explique. La pudeur, Raoui elav astira beyoter. La pudeur, c'est la dimension de se mettre de côté. Qui kacher ayaba la sot sorkav ayanichnas mara lifnim mara geder lifnim megeder la stira tsmo. Quand Shaoul a eu besoin, donc il est allé derrière des clôtures, encore des clôtures, à l'intérieur d'une caverne, pour être caché. Le car, c'est pourquoi, kacher badam lishlot bo, quand un homme a voulu le dominer, ayanista betzanoa mimeno, David n'a pas pu le dominer puisqu'il était caché. Essayons de comprendre. Il était caché. Caché, ça veut dire la pudeur. C'est que il n'y a pas que du dévoilé. Il n'y a pas que du dévoilé. On pourrait dire faire ses besoins, c'est naturel. Où est le problème ? C'est nature, on est fait comme ça. Mais si quelqu'un, ça lui pose problème, il ne veut pas se montrer, il y a des choses qu'il ne veut pas montrer, il y a des choses qu'on montre, il y a des choses qu'on ne montre pas. S'il y a des choses qu'on ne montre pas, ça veut dire qu'en nous, il y a quelque chose qui n'est pas que du naturel, il n'y a pas que de l'instinctif, il y a autre chose, il y a une intériorité. Il y a la neshama aussi. La neshama, ça veut dire, en nous, il y a du visible et aussi des choses qu'on ne peut pas voir. Pourquoi quelqu'un, excusez-moi l'expression, par exemple, les rachamim disent, pour prendre un exemple, quelqu'un qui mange dans la rue, de manière systématique, ne peut pas être témoin dans le droit juif. Quelqu'un, il est coincé, une fois il a mangé son sandwich dans la rue, c'est pas un problème. Il a mangé son sandwich dans le RER, c'est pas une catastrophe. Mais que systématiquement, ça ne le dérange pas de manger comme ça dans la rue. Ça ne le dérange pas. D'après la halakha, il ne peut pas être témoin. Il ne peut pas être témoin dans le droit juif. Ni en droit civil, ni dans d'autres, dans par exemple, droit matrimonial, droit civil, il ne peut pas être témoin. Pourquoi ? Parce que les sages disent, s'il n'a pas de respect pour lui-même, il n'aura pas de respect non plus, ni pour Dieu, ni pour les autres, etc. Il n'a pas de respect. Pas de respect, mais c'est nature. J'ai faim, je mange, je dirais. Où est le problème ? Non, là, on parle, celui, il se prend un shawarma comme ça, avec des frites, du ketchup. Plein de graisse. pas une fois, systématiquement. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Mais tu lui demandes, mais ça ne dérange pas ? Non, pourquoi ? J'ai faim. C'est naturel. Mais on n'est pas que du naturel.
Exactement.
C'est ça le problème. On n'est pas que du naturel. Il y a des choses. Par exemple, c'est un enjeu, ce passage cosmique. Que beaucoup de gens dans les pays occidentaux veulent dire qu'on est comme des animaux. On est des animaux supérieurs. Mais finalement, pourquoi ? Scientifiquement, on n'a pas prouvé que l'âme existe. Vous prenez tous les scientifiques, ils vont passer 5 ans à mettre des milliards de dollars pour rechercher est-ce que l'âme existe, est-ce que la neshama existe. Je suis convaincu qu'ils n'arriveront à rien. Parce que les outils scientifiques, c'est sur ce qu'on voit. Mais il n'y a pas que ce qu'on voit. Il n'y a pas que ce qu'on voit. C'est ça la tzniout. C'est qu'il y a quelque chose, ça le gêne. Ça le gêne. Dit le Maharal, de manière prophétique, quelque part, il est... S'il se cache physiquement, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le dominer. On ne peut pas le dominer. Ça veut dire qu'il n'est pas à la merci de l'autre. C'est ça ce que David a compris. Cet homme, c'est un roi. C'est quoi un roi ? Il n'y a personne au-dessus de lui. C'est ça la pudeur. Si nous, par exemple, on était... Ça ne nous dérangeait pas, excusez-moi l'expression, de nous dévêtir facilement. Ça voudrait dire que on n'est que... Ça veut dire... Prenons un exemple. Excusez-moi, je cherche des exemples précis pour bien le sentir, pour bien sentir ce dont on parle. On demande à quelqu'un, un collaborateur ou une collaboratrice, est-ce que tu peux appeler, par exemple, dans mon institution, des donateurs, aller faire de la démarche au téléphone pour aller... Quelqu'un, il te dit, non, moi, j'ose pas le faire. Alors, il y a deux manières de... Non, ça me dérange. Tiens, ça le dérange, je comprends pas. Mais bouge-toi. Je peux pas faire ça. Tiens, je peux pas faire ça. C'est un peu de... faut se prendre en main dans la vie. Il faut faire des choses qu'on ne sait pas faire. Quelqu'un dit, non, je ne peux pas faire ça. Mais si la personne, elle ne peut pas le faire, ça veut dire que je ne peux pas la dominer. Quelque part, cette personne, elle existe. On existe, pas toujours dans ce qu'on est capable de faire, mais ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qui, parfois, c'est que c'est nous-mêmes. Si on était capable de tout faire, on serait effectivement des machines. Mais qu'est-ce qui fait, ce qui nous empêche intérieurement de faire certaines choses, qui nous dérange même, et le signe que finalement on existe, qu'on n'est pas des machines. C'est ça le premier roi. Finalement, ce n'est pas un homme de guerre qui est tout le temps capable de faire des choses. Et à des moments, eh bien, il est là avec son corps. Il a un moment d'intimité, où il prend du temps pour lui. Donc, il voit, c'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui a sauvé le roi Shaoul. Le mot « souka », on voit « l'aser et traglav ». La serre de Raglav, il a mis son manteau pour se recouvrir comme une souka, et c'est ça qui l'a sauvé. J'ai vu dans un commentaire chassidique d'un livre peu connu mais extrêmement important qui s'appelle le Sod Yesharim, d'un rabbi de Radzin, c'est un rabbi qui était une centaine d'années. Il explique la chose suivante. La souka, donc, ce n'est pas du tout dans le calendrier juif. Hein, on va le rapporter quand même, parce que je pense que ça va nous aider. Le mot « souka » veut dire « protéger ». Protéger. C'est ce qui est au-dessus de nous. La souka, elle est faite de quoi ? Elle est faite, le verset dit « Beosperad garnecha vetikvera » Quand tu rassembleras, quand tu engrangeras ton blé et ton raisin. Les Chachamim apprennent que la souka, on le fait des résidus du pressoir et des résidus du battage du grain. C'est-à-dire, quand tu as pressé le raisin, il y a des choses que tu vas mettre à la poubelle. Des choses végétales que tu vas mettre à la poubelle. Les sarments de vigne. Ce qui ne te sert plus à rien, tu as pressé le raisin, le reste tu mets à la poubelle. Tu récupères ce qui ne te sert à rien et tu le mets comme toi sur la souka. De la même manière, tu as battu le grain, la paille que tu pourrais donner aux animaux, cette paille que toi, tu ne vas pas manger, tu la mets au-dessus de toi, ça va te faire le toit de la soukha. Les kabbalistes disent que qu'est-ce qui nous protège ? Ce qui nous protège dans la vie, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Ce qu'on n'arrive pas... Le raisin, je l'ai pressé, ça je vais le consommer. Mais le résidu, je vais le mettre à poubelle. Qu'est-ce qui nous protège ? C'est ce qu'on arrive... Ce de quoi on n'arrive pas à faire. C'est ça ce qui nous protège. C'est ça la tzniout. La tzniout, c'est que... On pourrait être immédiat, on pourrait faire des choses immédiatement. Eh bien, non, il y a des choses, je n'arrive pas encore à les faire. Ce que je n'arrive pas à faire, c'est ça ce qui nous protège. Rabbi Yitzhak Luria, il dit. Rabbi Yitzhak Luria dit, et peut-être ça c'est le cœur du sujet. Le cœur du sujet. Il dit, comme la phrase de Rabbi Yitzhak Luria, de Arizal, c'est la chose suivante. Le fruit, dans le fruit... Par exemple, dans une pêche, dans la chair de la pêche, tu as le nom Yudke Vavke. Tu as le tétragramme. La peau de la pêche, tu as le nom Eye. C'est-à-dire, il y a un niveau spirituel supérieur dans la peau de la pêche que dans la pêche elle-même. J'explique. Comment ? Ayez. Alors, Yudke Vavke, c'est le présent. Le tétragramme, c'est le présent. Dans un fruit, je vais manger le fruit. Mais si je mange tout, si je mange tout, si je consomme tout, les choses s'arrêtent. Le fait qu'il y a des choses que je ne peux pas consommer, que je vais mettre à la limite à la poubelle. Des choses que je ne consomme pas, c'est ce qui va faire qu'il y a un futur. C'est ça, ayez, c'est le futur. C'est le devenir. Qu'est-ce qui protège un fruit ? C'est que tout n'est pas consommable dans un fruit. C'est ça qui va faire que ce fruit, il ne pourrit pas. Ce fruit, il peut se consommer. Vous avez une pomme. Il y a la peau de la pomme. Vous enlevez la peau de la pomme, eh bien, ça va durer quelques heures. C'est grâce à la peau que je peux garder quelques jours. Dans mon salon, c'est comme ça. Mon épouse va faire les courses au marché, place de la Réunion. Elle amène des pommes. Voilà, soit des pommes grand A. Mais ces pommes, je peux les garder dans mon salon, dans une belle corbeille où elle a les fruits, plusieurs jours. Mais si je l'épluche, la pomme, elle va s'abîmer. Donc, qu'est-ce qui protège ? Mais le paradoxe, c'est que l'épluchure, je ne la mange pas. Donc, qu'est-ce qui protège ce que je ne consomme pas ? Et je pense que ça, c'est d'une actualité incroyable. Aujourd'hui, on cherche à tout consommer. On cherche à tout consommer. Prenons un exemple. On appelle aujourd'hui l'ubérisation de la société. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Les Uber. Oui. Voilà. Voilà. C'était ça le thème, Uber et judaïsme. Avant, il y avait les taxis, à l'époque de Vercingétorix. Il y avait les taxis. Les taxis... Il faut passer par une centrale, j'appelle les taxis, le G7, machin, je commande des taxis, il y a une instance centrale et machin, bidule. Même, il y avait un truc incroyable dans les taxis, c'est qu'il fallait avoir de l'argent avec soi. Maintenant, vous avez votre application, vous avez le truc, il arrive tout de suite, vous n'avez même pas besoin de le payer, puisque votre carte bancaire est en mémoire. En plus de ça, il y a une dimension personnelle. Après, quand vous sortez, vous notez le mec qui vous a trouvé. Et sachez qu'il vous note aussi. Il vous note. Une fois, j'étais dans un Uber, il m'a dit « Je vous mettrai, monsieur, une bonne note. » hallucinant. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est du direct. On ne passe plus. On passe par quelque chose de direct. Encore, il y a un autre truc, ça s'appelle Airbnb. C'est quoi ? Disons, cet été, je pars 2 semaines en vacances. Jusque-là, bon, j'avais un appart à Paris. Pendant 2 semaines, bon, il y a mon appart, voilà. Bon, nous, on ne va pas le faire parce qu'il y a des problèmes de cache-route avec la vaisselle, machin. Mais disons, quelqu'un de normal. quelqu'un de juif, quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal. Comment ?
Il faut que ça plaise aussi de laisser son appartement.
Oui, bon, évidemment.
Il y a des échanges.
Mais regardez, avant, on pouvait prêter son appartement. On pouvait prêter son appartement. Il y a quelqu'un, disons, je vais en Israël. Et quelqu'un d'Israël, il vient ici 2 semaines. On fait un échange et c'est gratos. C'est gratuit. Maintenant, mon appartement, 2 semaines, je peux le vendre. Je peux passer par un circuit et me faire de l'argent de manière significative. Donc ça veut dire tous les détails peuvent être exploités. On peut exploiter tout. Je prends aussi un autre exemple. Vous, mesdames, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, mais disons, les hommes, ils ont des chaussettes. Disons, quelqu'un, il a 5 paires de chaussettes. Mais jusqu'à maintenant, on a seulement 1 paire de pieds. Donc, il y a... Donc, il y a 4 paires que je n'utilise pas. Nous allons faire une application. Ouais. Nous allons faire une application. Ouais. Location direct, face to face. Ça veut dire, en direct... Vous avez besoin de chaussettes, j'en ai, je n'utilise pas actuellement. Et je peux me faire un peu d'argent. Alors, c'est vrai, bon, Hachem, c'est rigolo, mais en vérité, c'est pas rigolo du tout. C'est pas rigolo. Parce que il y a une dimension, où tout est exploitable. Prenons un exemple aussi. J'ai jamais réussi parce que je ne suis pas très très bon. On m'a dit, tu as des trucs dans la cave qui ne te servent à rien, vends-les avec le bon coin, etc. Donc tout est exploitable. Il reste 3 cahiers de mes enfants qui restent dans la cave depuis 15 ans, je peux les vendre. Donc tout est exploitable. Ça veut dire qu'il n'y a pas un élément de notre réalité qui n'est pas exploitable. Tout est commercialisable, tout est efficace. Tout est efficace. L'efficacité à tout craint, c'est le contraire de l'atzniout. C'est le contraire, je dirais, de la neshama. Le fait qu'il y a quelqu'un qui a de la pudeur, je parle pudeur naturelle, pas la pudeur pour faire style re-re. Mais... Vous demanderez après qu'est-ce que ça veut dire. Mais disons, quelqu'un qui a de la pudeur, la réserve, ça veut dire que ces personnes, elles ne peuvent pas tout faire. Il y a des choses, elles ne le sentent pas, elles ne peuvent pas le faire. Elles ne ressentent pas qu'elle peut le faire. Ah, tu m'as dit, elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace. Mais quelque part, c'est sa grandeur. C'est l'expression de sa neshama. C'est l'expression qu'elle existe. C'est ça ce que le Maharal de Prague dit. Le fait que il était, le fait que Shaoul était pudique à ce moment-là, était réservé, discret. S'il est discret, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose, on n'a pas une prise sur lui. On n'a pas un pouvoir sur lui. Il nous échappe. Mais qu'est-ce qui nous échappe ? C'est la neshama qui nous échappe. On n'a pas de prise sur la neshama. On peut avoir de prise que sur le gouffre. Mais la Neshama, il n'y a pas de prise. Sur l'âme, il n'y a pas de prise. J'ai entendu, il y a une vingtaine d'années, j'avais un fils qui était dans la yeshiva de Rav Volbe. Vous avez entendu parler de Rav Shlomo Volbe, Alav HaShalom. Et environ une vingtaine d'années, j'étais à un cours de Rav Volbe. Il disait, pourquoi la tzniout, on la trouve plus naturellement chez les dames. Plus naturellement chez les dames. Parce que c'est chez les dames que la vie se forme. Le bébé, il se forme dans un endroit caché. La vie, elle vient d'un lieu qui nous échappe. Comment la vie, elle vient ? C'est quelque chose qui nous échappe. Comment la vie vient ? Comment elle se crée, la vie ? De quel monde elle vient ? Ça, c'est quelque chose qui nous échappe. Et la femme, c'est elle qui porte la formation de la vie. Donc c'est quelque chose qui, la neshama, comment la neshama se forme, c'est quelque chose qui nous échappe. Donc là, ça c'est ça, le secret de la tzniout. C'est pour ça que la royauté, c'est qu'il y a au-dessus de nous, vous l'avez dit madame, il n'y a que Dieu. Alors on pourrait dire, c'est juste ce que vous avez dit, que la tzniout, c'est la perception qu'il y a au-dessus de nous Dieu. On peut dire les choses, la même chose, avec une petite nuance. La tzniout, ça signifie... Qu'est-ce que signifie la tzniout ? C'est qu'il n'y a au-dessus de moi, pas qu'il y a, Dieu au-dessus de moi, mais il n'y a que Dieu, que personne ne peut avoir de prise sur moi. Je vous donne un exemple aussi. Il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques, qu'on pourrait dire comme ça. Prenons par exemple quelqu'un qui est anorexique. J'ai lu des livres sur l'anorexie. Comment ? Évidemment. Donc ça, on commence la deuxième partie qui va s'appeler Kaila et Judaïsme. Il y a des gens, ça leur est difficile de manger. Manger, c'est une agression pour eux. Ça peut les mettre en danger, d'ailleurs. Mais quelque part, cette personne souffre même de manger. Il y a des personnes, elles souffrent de manger. Mais tu pourrais dire... C'est naturel, c'est vital. Cette personne, elle souffre. Mais quelque part, cette difficulté est que cette personne, elle n'arrive pas à se soumettre à... C'est un peu, si vous voulez, comme la tzniout. La tzniout, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire certaines choses. Il y a certaines difficultés comme ça. La personne n'arrive pas à manger. Ça la fait souffrir. Mais quelque part, c'est que cette personne, en ne mangeant pas, elle contrôle. Elle est en contrôle. Peut-être c'est exagéré. Mais elle est en contrôle. Elle domine la chose. C'est une attitude d'exister. Exagérée. Ça, c'est ce qu'on voit ici dans la tzniout. La tzniout, parce que tu pourrais dire, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, force-toi. Il paraît, par exemple, il y a des coachings dans des entreprises, des gens, par exemple, ils n'arrivent pas à parler en public, ils suivent un coach pour pouvoir sortir de ces inhibitions. C'est sûr qu'il y a des inhibitions qui sont négatives, mais d'un autre côté... Ces inhibitions ne viennent pas toujours de côté négatif. Ces inhibitions, elles viennent aussi qu'il y a une vie intérieure dans la personne. Donc c'est difficile de trouver le négatif et le positif. Voilà, c'est ça, grosso modo, ce que je voulais voir avec vous. Il y a énormément de choses à voir sur la tzniout. Surtout que là, il va y avoir à Shavuot la lecture du rouleau de Ruth. Et Ruth, on voit que la qualité première qu'on voit chez Ruth, c'est cette discrétion. Il y a énormément de personnages centraux dans la Torah. On voit c'est cette dimension de discrétion qui, je pense, c'est quelque chose à creuser parce qu'il y a des aspects très, très divers. Ça, c'est, on a vu aujourd'hui un aspect, je synthétiserai, c'est cette dimension qu'explique le Maharal, que dans cette pudeur, dans cette discrétion, il est le roi. Il montre que personne n'a de prise sur lui, qu'il n'a au-dessus de lui que Dieu. Personne n'a de prise sur lui. On ne peut pas le bouger. Alors c'est un côté limité, mais c'est la richesse de la personne aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un développement où tout doit être dévoilé. Mais par exemple, dans Facebook, vous voyez, Facebook à Kadosh, ouais, on dévoile sa vie privée. On dévoile sa vie privée. On montre tout. Tout est à montrer. Ils se font une fortune sur l'instinct qu'on a de vouloir montrer qui on est. On se montre. La tzniout, je pense que là, de ce qu'on voit, c'est l'éternité du Ham Israël. C'est pas la tzniout, si vous voulez, folklorique, mais la pudeur intérieure des choses. Pas le folklore, mais la pudeur intérieure, c'est l'éternité du peuple juif. Je terminerai cette étude par la chose suivante. J'ai vu dans le Maharal, dans un livre qu'il a écrit sur Hanouka. Vous voyez, c'est tout à fait d'actualité. On a parlé de Sukkot, maintenant on parle de Hanouka. Que les Grecs, c'était la culture philosophique. Le sechel, l'intellect. Et ils ont dominé le temple de Jérusalem. Ils sont rentrés dans le temple, ils n'ont pas détruit le temple de Jérusalem, mais ils ont rendu impures les huiles, c'est écrit, Kolashmanim Sheba Echal, toutes les huiles qui sont dans le Echal, dans le sanctuaire du temple. À l'intérieur du temple, pour faire un plan du temple, vous avez, disons, prenons comme ça. Ça, c'est le Beth Amikdash. Ça, c'est la cour des Kohanim. Là, il y a le Kodesh et le Kodesh à Kodashim. Le Saint et le Saint des Saints. Dans le Saint, il y a la menorah à 7 branches. Bien. Les Grecs sont rentrés dans le Beth Amikdash, dans le Echal. Ils ont rendu impures toutes les huiles qui sont dans le Echal, dans le sanctuaire. Le Maharal dit que Yavan, en valeur numérique, Yavan, c'est 66 en valeur numérique. Echal, en valeur numérique, mesdames, là, les expertes.
55.
Comment ?
Avec un E,
Echal.
Et 5, Rav.
La mode,
ça fait 65. Non, parce qu'il y a Yud. Un Yud. 65. Donc, Yavan, valeur numérique de Yavan, 66. Echal, 65. Explique le Maharal que quelque part, la culture grecque, le monde grec, on pourrait dire occidental, avec la connaissance, les sciences, arrivent à dominer des dimensions du peuple juif qui s'appelle le Echal, puisque la valeur numérique de Yavan, c'est 66, et le sanctuaire, c'est 65. Mais le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, les Grecs n'avaient pas de capacité de rentrer dans le Saint des Saints. C'est pour ça que le miracle de Hanouka, c'est la famille du Kohen Gadol. Pourquoi ? Parce que le Kohen Gadol rentre dans un endroit où on ne rentre pas, un endroit secret. La dimension de Aaron, c'est la dimension, comme on va le voir, de la discrétion. On voit que Aaron, il faisait beaucoup de chesed, mais ce chesed, il ne le montrait pas. Il faisait la paix entre les gens, entre un homme et sa femme, entre un homme et son ami, mais discrètement. Il ne montrait pas les massim tovim qu'il faisait à Aaron. Ça, c'est cette discrétion, c'est le Kodesh HaKodashim. On pourrait dire la différence structurelle entre la connaissance d'Israël et la connaissance des nations, c'est que dans la dimension d'Israël, ce mélange à l'intérieur de la science d'Israël, ces dimensions de tzniut. C'est ces tzniut sur lesquelles les Grecs n'ont pas de part. D'ailleurs, le lieu de connaissance chez les Grecs, c'était l'agora, c'était le forum, c'était la place publique. Dans notre tradition, on n'enseigne pas sur la place publique. On enseigne dans le Beit HaMidrash, dans le Beit HaKnesset, dans des endroits circonscrits. Aaron, on dit que Aaron, c'est par le mérite d'Aaron qu'il y avait la Anané Kavod, les nuées qui protégeaient les enfants d'Israël. Le Maral explique dans Netzar Israël. Qu'est-ce qui sauve le peuple juif par le mérite d'Aaron ? Alors ça, c'est un truc, excusez-moi l'expression, de ouf. Qu'est-ce qui sauve le peuple juif ? Dit le Maharal, c'est la dimension d'Aaron. C'est quoi les nuées de gloire ? C'est que le peuple juif n'est pas visible. Que les nations, qu'on soit caché des nations, qu'on soit discret par rapport aux nations, que les nations ne nous comprennent pas forcément, c'est ça qui nous protège. C'est ça la dimension d'Aaron. Quand Aaron est mort, les enfants d'Israël étaient visibles. Et là, ils ont été attaqués par Amalek. La discrétion, c'est la dimension d'éternité du peuple juif. Parce que c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de prise. C'est une dimension de liberté, en vérité. C'est notre liberté. La discrétion, c'est ce qui fait notre existence. Comment ? C'est juste. Mais regardez, je vais prendre un exemple. On dit toujours qu'Israël ne sait pas faire de propagande. Ils ne savent pas, on perd toujours la guerre médiatique. Hein, n'est-ce pas ? On dit toujours qu'on... La propagande, comme disait le cher Goebbels, plus c'est gros, plus ça passe. C'est raconter des sornettes, et plus c'est des grosses sornettes, plus ça passe. C'est la propagande. Et souvent, on dit qu'Israël ne sait pas expliquer qu'est-ce qu'ils font. On trouve ça comme un défaut. Mais le fait de ne pas savoir expliquer qu'est-ce qu'on fait, quelque part, c'est une protection. C'est-à-dire, on vit quelque chose de secret. Si tu arrives tout à expliquer, c'est que tu ne vis pas. Bizarre, hein ?
Quelque chose qui marche pas.
Hein ? Ça ne marche pas bien.
Ça ne se concorde pas.
Voilà. Ok, ça c'est ça. C'est, comment ?
Parce que la vérité n'a jamais eu besoin de démonstration, contrairement au mensonge.
Oui, c'est ça le sujet. La vérité, elle se vit, elle ne s'explique pas forcément. L'expliquer, ça veut dire que c'est tout et à plat. Mais si c'est à plat, ce n'est pas du vécu. C'est ça la tzniout, c'est quelque chose de vécu. Ok, ça c'est ce que je voulais voir avec vous.
Bien. Merci beaucoup.